droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour, soyez les bienvenus à votre magazine Mon droit au quotidien. Dans le numéro de ce jour ainsi que celui de la semaine prochaine, nous allons recevoir la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. Prétexte de ces deux rendez-vous, cette association qui existe depuis 1984 en est maintenant à sa 40e année d'existence. Il était donc important pour nous de recevoir celle qui en assure la direction actuellement pour passer en revue les grands moments d'existence de l'AFJCI, mais aussi nous aurons l'occasion lors de ces deux rendez-vous de parler de la lutte contre les violences basées sur le genre, de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire et de voir surtout ce que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire compte entreprendre comme action dans ces différents domaines. Soyez les bienvenus, amis auditrices et auditeurs, à votre magazine Mon droit au quotidien.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Comme je l'indiquais tantôt en introduction, notre magazine de ce jour va ouvrir donc son espace à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui en est aujourd'hui en sa 40e année d'existence. Pour ce fait, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir dans nos studios ici Maître Francine Aka Angui. Elle est avocate près le barreau de Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Elle est surtout la présidente du conseil d'administration de l'AFJCI. Maître Francine Aka Angui, bonjour.
Bonjour Monsieur Aoussi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de nous avoir invités.
Ben, c'était nécessaire pour nous, d'autant plus qu'on a besoin aussi d'informations. D'autant plus aussi que l'AFJCI est dans le paysage juridique de la Côte d'Ivoire depuis aujourd'hui 40 ans. Une association qui est bien connue, qui est bien implantée, qui mène beaucoup d'actions à l'endroit de la jeune fille et de la femme de façon générale en Côte d'Ivoire. Nous en parlerons, c'est vrai, mais déjà il serait bien pour nos auditeurs afin qu'ils puissent bien nous suivre et qu'ils aient une idée exacte de ce qu'est votre association, de nous la présenter en quelques mots, Maître Francine Aka Angui.
Je vous remercie. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est une association à but non lucratif, composé de femmes juristes, comme son nom l'indique, donc des femmes qui ont fait des études de droit, qui exercent des professions juridiques, avocats, magistrats, notaires, commissaires de justice, etc. Et qui est composé d'environ aujourd'hui 400 membres actives, mais plus si on compte les non-actives, on atteint facilement les 600 membres.
D'accord, des membres répartis sur toute l'étendue du territoire national.
Exactement, sur toute l'étendue du territoire, car nous avons ce que nous appelons des cliniques juridiques, qui sont donc des centres d'accueil et d'écoute et d'orientation que nous animons donc à travers la Côte d'Ivoire. Nous en avons au total 12 sur toute l'étendue du pays. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des cliniques mobiles, qui sont des camions, deux camions mobiles, avec lesquels donc nous sillonnons vraiment les villages, les contrées les plus reculées du pays.
Alors, Maître Francine Aka Angui, si nous avons bonne mémoire, les cliniques juridiques, c'est carrément l'une des particularités de l'AFJCI. Dites-nous-en un mot, les cliniques juridiques, c'est quoi exactement?
Tout à fait.
Pourquoi vous avez ressenti le besoin au niveau donc de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire de les créer?
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une particularité de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, c'est une particularité de l'Association des femmes juristes africaines.
D'accord,
donc,
très
c'est
bien.
C'est pour ça que vous les trouvez en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, dans chaque pays, pratiquement, vous avez des associations des femmes juristes.
Très bien.
Donc, du coup, vous allez retrouver ces cliniques juridiques-là. Et on a éprouvé donc au niveau des associations de femmes juristes le besoin de créer ces cliniques juridiques parce que nous nous sommes rendus compte que le siège de nos associations se trouve dans la capitale, mais il faut bien que le reste de la population ait accès aussi aux informations juridiques.
Absolument.
D'où la nécessité de créer ces cliniques qui sont, comme le nom l'indique aussi, des cliniques comme à l'hôpital. C'est-à-dire que vous avez un mal de droit, donc vous allez à la clinique pour qu'on vous donne des orientations, qu'on vous fasse une ordonnance pour vous dire voilà comment il faut faire, voilà où il faut aller pour guérir, trouver la solution à votre problème.
Et cela passe aussi par une bonne écoute des justiciables, encore des citoyens, des citoyennes qui viennent vers vous, des femmes et des jeunes filles
ça
qui viennent vers
vous. Ça commence même, on va dire, même par l'écoute. Mm-hmm. Ça commence même par l'écoute parce que vous savez, souvent les populations, les personnes n'ont personne à qui se confier en réalité. Vous savez, on ne confie pas ce genre de problème-là à sa famille, à son voisin. Donc, avoir un professionnel du droit accessible, à qui vous pouvez aller expliquer votre problème, qui va vous écouter et qui va vous orienter quant à la solution, vraiment, c'est l'idéal.
Merci déjà donc, Maître Francine Aka Angui. Je rappelle, avocate près le barreau de Côte d'Ivoire depuis plus d'une trentaine d'années. Vous êtes aussi présidente du conseil d'administration de l'AFJCI. Et pour celles et ceux qui viendraient donc de nous prendre en marche, juste indiquer que vous êtes à l'écoute du magazine Mon Droit au quotidien sur Radio de la Paix. Nous recevons donc Maître Francine Aka Ngui ce jour-ci et la semaine prochaine pour passer avec elle en revue les grandes actions menées par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire depuis sa création en 84, donc 40 années d'existence. Mais aussi, nous aurons l'occasion de voir avec elle ce que cette association fait en matière d'aide à la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que les grossesses en milieu scolaire.
Mon droit au quotidien, votre magazine d'information pour connaître et comprendre vos droits et devoirs sur la fréquence de la paix.
Je reviens à vous donc, Maître Francine Aka Ngui. À l'instant, vous nous présentiez l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AFJCI. Alors, 40 années d'existence, ça fait beaucoup. Ce n'est pas rien pour une association. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de ces 40 années d'existence de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Maître Francine Aka Ngui?
Effectivement, 40 années, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Hein. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui reste à faire.
C'est ça.
Voilà, mais nous avons fait quand même beaucoup.
Beaucoup.
Nous avons fait beaucoup.
On va pas être exhaustif, hein, mais déjà...
Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Bien sûr. De manière générale, nous avons assisté les populations d'un point de vue juridique et d'un point de vue judiciaire. Juridique, c'est-à-dire c'est les conseils juridiques que nous avons donnés. Quand nous avons fait une évaluation, je vous assure qu'aujourd'hui, on a touché plus de 100 000 personnes.
100 000
a, oui, plus
c'est
de 100
beaucoup.
000 personnes. On a touché plus de 100 000
40
personnes.
40 années. Hein.
Ouais. Ouais. Et femmes comme hommes. Hein. Et donc, ce sont des consultations juridiques que nous avons faites et des assistances judiciaires, c'est-à-dire accompagner les personnes dans leur procédure au tribunal ou devant les autorités de police ou autres. Ça, c'est de manière générale pour ce qui est l'assistance. La vulgarisation des textes de droit, bon, ça, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Mais là où je veux dire que nous avons quand même apporté, nous avons contribué à la modification des textes du Code de la famille, tout ce qui est mariage, succession, filiation, puisque quand nous faisons nos sensibilisations, nous faisons des rapports au ministère de la Justice, au ministère de la Femme, et nous leur apportons un peu quelles sont les préoccupations des populations, les préoccupations juridiques. Il faut dire que ces préoccupations donc ont été prises en compte, plus ou moins en tout cas, avec les dernières réformes de 2019. Nous avons aussi la satisfaction d'avoir eu la loi sur le quota de 30% de candidatures féminines. Ça aussi, c'est un texte pour lequel nous avons fait beaucoup de sensibilisation.
De lobbying.
De lobbying, aussi, de lobbying, de plaidoyer. Voilà, c'est le terme de plaidoyer. Nous avons eu aussi le texte sur l'interdiction des mutilations génitales féminines. Nous avons obtenu aujourd'hui des textes qui protègent, on va en reparler, sur les violences basées sur le genre.
Exactement.
Voilà, donc vraiment, je pense que sur le plan législatif, on a pu apporter en tout cas notre pierre à
l'édifice. De grosses avancées aussi.
Tout à fait.
Alors, vous en parliez tout à l'heure, je voudrais qu'on s'y apaisantisse un peu. Hein, la loi sur le quota de 30% quant à la participation des femmes donc dans le domaine politique. Hein, bon, le constat qui est fait, c'est qu'aussi ça a quelques difficultés à vraiment se mettre en marche. À ce niveau, vous continuez toujours le plaidoyer, mais surtout, comment vous expliquez cette difficulté pour les partis politiques à s'exécuter?
Merci pour la question, parce que c'est vraiment d'actualité, et je pense qu'elle va être encore d'actualité,
voilà,
puisque nous allons, voilà, 2025 à l'horizon. Vous savez qu'on a dit, c'est une loi de 2019. Et figurez-vous que, aux élections de 2021, cette loi même n'a même pas été appliquée.
Ce qui est dommageable.
Exactement. Les partis politiques même se sont mis d'accord pour dire, on n'est pas encore prêt
à l'appliquer.
À l'appliquer. Okay. Donc la loi avait été mise de côté.
Mais pourtant, ce sont leurs représentants à l'Assemblée nationale qui ont voté cette loi.
Bon.
Difficulté donc pour des associations comme la vôtre.
Exactement. Donc en 2023, à la veille donc des élections locales, municipales et conseils régionaux, on a fait le plaidoyer. Là, je vous assure qu'on a fait le plaidoyer. On a dit non, cette année, ça ne passera, ça se passera pas comme ça. Et effectivement, notre plaidoyer a porté, puisque le président de la CEI, quelques mois avant les élections, a fait un communiqué pour dire aux partis politiques que cette année, la loi s'appliquerait. Que s'ils n'ont pas 30% de candidatures féminines, les listes seront rejetées. Voilà, donc j'avoue que ça n'a pas été facile, mais on a pu obtenir 34% de candidatures féminines.
Bon, 4%, c'est
déjà 34%.
Bon, 4% sur les 30, c'est déjà bon à prendre.
C'est déjà bon à prendre, mais les difficultés, comme ce que vous avez demandé, elles viennent déjà des partis politiques eux-mêmes. Regardez un peu dans les chapelles politiques. Regardez les têtes. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont vice-présidentes des partis, déjà même présidentes de partis politiques, bon, à part celles qui ont créé elles-mêmes leur parti. Mm-hmm. Mais si vous n'avez pas créé votre parti, que vous êtes, bon, je ne veux pas les citer, PDCI, RHDP, etc.
Allez-y, oui,
vous
c'est
verrez,
la partie la plus significative.
Mais voilà,
de les citer, PPACI,
et voilà, mm-hmm. Vous verrez que à la tête, il n'y a pas, de femmes. Ou en tout cas, il y en a très peu. Il y en a très peu. Si vous avez une direction de 10 personnes, vous aurez peut-être une femme.
Pour les femmes de RHDP, PPACI, PDC, c'est toujours une femme, mais vous voulez là l'instance même dirigeante.
Dans les instances dirigeantes.
Les femmes soient bien représentées.
Voilà, parce que on retrouve les femmes dans les partis politiques, mais vous savez où on les retrouve? À la mobilisation, à la restauration.
Ok, merci maître, d'accord.
Ah, vous voulez pas qu'on continue dessus?
Mais, non, déjà on comprend que vous avez encore beaucoup à faire à ce niveau.
Il y a beaucoup à faire à ce niveau.
Et les partis politiques, ne baissez pas les bras.
Les partis politiques doivent en fait modifier eux-mêmes leur propre statut pour déjà inclure ces 30%, cette obligation de 30%. Comme ça, quand ce sera dans leur statut, après ce sera plus facile pour eux effectivement d'avoir les femmes.
À ce niveau, vous poursuivez toujours le lobbying,
complètement.
Le plaidoyer.
Complètement.
En tout cas, nous vous souhaitons bonne continuation à ce niveau et puis aussi France succès là-dessus. Je voudrais aussi que nous parlions, en quelques mots, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, les réformes de 2019 qui ont touché le mariage, la succession, la filiation. Nous allons revenir tout à l'heure au mariage, mais en ce qui concerne la succession et la filiation, ces deux domaines, au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, quelles sont les avancées notables que vous avez eues à saluer, que vous voulez relever aussi pour nos auditrices et auditeurs?
Alors, au niveau de la filiation, l'avancée notable, c'est qu'aujourd'hui, un père peut reconnaître son enfant à tout moment. Il n'est plus obligé, on n'est plus obligé de dire, bon, si tu n'as pas reconnu dans les 3 mois, après, il faut faire... Non. Aujourd'hui, si un enfant naît, que le père n'est pas présent ou ne veut pas reconnaître l'enfant pour une raison ou pour une autre, il peut ensuite, quelques mois après ou même des années après, se rendre à l'état civil pour dire, je suis venu reconnaître mon enfant. Mais pour cela, il faut que la mère, évidemment, ait laissé la partie du nom du père vierge, voilà. Donc ça, c'est vraiment une avancée notable. Vous voyez, le père peut reconnaître son enfant à tout moment et la procédure est simple. Vous allez à l'état civil, vous dites vous voulez reconnaître votre enfant. L'officier d'état civil fait juste la notification au procureur pour s'assurer que bon, il n'y a pas d'irrégularité d'ordre public et puis vous reconnaissez votre enfant.
Ça, c'est la filiation.
Ça, c'est la filiation.
Succession.
Au niveau de la succession, aujourd'hui, avec la loi de 2019, le conjoint survivant bénéficie du quart du patrimoine du défunt. On dit bien le conjoint, donc ça peut être le veuf comme la veuve. Souvent on parle des veuves, mais bon, malheureusement il y a des veufs aussi. Voilà. Et ce quart vient en plus de ce que le conjoint pourrait avoir s'ils étaient mariés sous la communauté de biens. Voilà, je vous explique. Parce que quand on est marié sous le régime de la communauté de biens, en cas de décès, le conjoint survivant a droit à la moitié du patrimoine.
D'accord.
Mais avec cette nouvelle loi, en plus de cette moitié, il y a un quart en plus qui s'ajoute.
D'où l'importance de contacter des mariages légaux.
Légaux.
Devant la loi.
Exactement.
Parce que comme je l'ai dit, il y a 50% de fait.
Oui.
Et puis un
plus
quart
un
qui
quart
s'y ajoute.
Qui s'y ajoute. Mmh. Et même si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, vous avez quand même droit à un quart du patrimoine du défunt.
Si vous avez pris soin de vous marier légalement.
Légalement. Merci pour la précision. Parce que le constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est que les Ivoiriens n'aiment pas le mariage civil. Mmh. Ils préfèrent la dot. Ils s'arrêtent à la dot. Ils estiment que c'est la dot qui est le mariage. Mmh. C'est vrai que c'est le mariage selon nos coutumes, mais il faut aller devant l'officier d'état civil pour que ce mariage-là puisse produire des effets.
On pourrait aussi noter à ce niveau, si je ne m'abuse, hein, que aussi il y a une avancée parce que le mariage coutumier a une certaine reconnaissance au niveau de l'État ivoirien.
Malheureusement, je n'irai pas dans ce sens-là.
D'accord.
Parce que effectivement, la dot n'est plus une infraction, parce que ça l'était, c'était une infraction pénale, ce n'est plus une infraction, ça a été retiré du code pénal. Seulement, la dot ne donne aucun effet légaux. Voilà, la loi ne dit pas que quand on fait une dot, ça donne tel effet, ça vous donne tel statut. Mm-hmm. Non, ça ne vous donne absolument rien.
D'accord, sauf que c'est dépénalisé.
C'est dépénalisé.
Voilà, exactement. Déjà avancé, mais il faut prendre soin, n'est-ce pas, de se marier légalement.
Et c'est pour ça que nous faisons le plaidoyer aujourd'hui, pour que la dot puisse être prise en compte, qu'on puisse lui donner des effets légaux, justement. Parce que les personnes qui font la dot, vous voyez qu'on signe des registres, ou bien quand on fait le mariage religieux au niveau de la mosquée pour les musulmans, on signe un registre, il y a des
ou
témoins.
De pour les chrétiens.
Voilà. Mais ce mariage n'a aucun effet juridique.
C'est ça.
Donc c'est quand même dommage, surtout qu'on sait que c'est ce que les Ivoiriens préfèrent, entre guillemets, en tout cas mettre en avant comme mariage.
Je voudrais juste indiquer pour celles ou ceux qui viendraient de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr à l'écoute du magazine Mon Droit au quotidien. Nous recevons aujourd'hui Maître Francine Aka Angui. Elle est avocate près le barreau de Côte d'Ivoire. Elle est aussi présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. Avec elle, nous parlons de la dite association qui, cette année-ci, a donc 40 années d'existence. Mais aussi, nous parlons d'avancées au niveau donc des réformes en termes de loi en Côte d'Ivoire depuis 2019. Nous aurons l'occasion aussi de parler de la lutte contre les violences basées sur le genre et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Retour à vous, maître Francine Akangui. Nous allons aborder avec vous pour ce premier rendez-vous. Je voulais juste préciser, vu l'importance des sujets que nous allons aborder, que il y aura donc deux rendez-vous cette semaine-ci et la semaine prochaine. Alors, dernier virage de cette première partie de notre entretien avec vous, c'est de voir ensemble les réformes intervenues en 2019, surtout en rapport avec la loi sur le mariage, la loi donc 2019-570 du 26 juin 2019. Alors, il y a un point dans cette loi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si je ne m'abuse, l'article 51, entre autres, qui fait allusion au fait que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Certains m'ont parlé d'un article qui pourrait entraîner la désintégration de la cellule familiale ou encore une loi qui allait générer plus de problèmes juridiques et sociaux qu'elle allait en résoudre parce qu'on a vu l'homme et la femme au même niveau d'égalité. Vous, quel regard vous avez porté sur cet article-là au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il faille le craindre, cet article-là, ou bien c'est vraiment une avancée notable à saluer?
Pour nous, c'est une avancée notable puisque nous faisons la promotion de l'égalité homme-femme. Donc, pour nous, ça ne peut être qu'une avancée notable puisque la disparition donc de notion de chef de la famille du mari donc met l'épouse au même pied d'égalité que son époux. Mais ce n'est pas pour dire que, comme on dit, il y a deux capitaines dans un bateau. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit.
D'accord.
C'est pour juste équilibrer en fait le foyer, pour que le foyer soit plus harmonieux. C'est-à-dire qu'on a décidé de se marier parce que on s'aime, on veut vivre notre vie ensemble. Donc, pourquoi, une fois qu'on est marié, il faudrait qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre pour diriger le foyer? Non, nous sommes deux personnes. La femme est un être humain comme l'homme. Elle pense, elle réfléchit comme l'homme. Donc, c'est à deux qu'on décide de l'avenir de notre foyer, de notre couple et de l'avenir de l'éducation, de l'entretien de nos enfants qu'on a ensemble.
Alors, bien reçu, maître Francine Akangui, fondamentalement, cet article-là ne remet pas en cause l'autorité de l'homme dans la famille.
Et bien sûr que non, ça ne remet pas en cause cette autorité. C'est simplement que ça crée un équilibre. Voilà, ça crée un équilibre pour dire qu'effectivement, l'homme a son autorité, mais la femme aussi a son mot à dire. Elle a sa partition à jouer. Elle n'est pas juste là, spectatrice, passive de ce qui se passe dans le foyer.
Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez eu à noter par le passé avant que cet article ne soit donc promulgué? Qu'est-ce que vous avez eu à noter comme défaillance avant la survenue de cet article-là?
Justement, la défaillance, on la notait même d'un point de vue fiscal.
D'accord.
Vous voyez, d'un point de vue fiscal, le fait que l'homme soit le chef de la famille faisait qu'il bénéficiait d'abattements fiscaux quand ils avaient des enfants. C'est-à-dire que vous déclarez que vous êtes marié, vous dites que vous avez un ou deux enfants, c'est le mari qui bénéficiait de la part des enfants, pour que lui, ses impôts soient moindres.
Même si la femme aussi travaillait.
La femme travaillait, elle n'en bénéficiait pas. Parce qu'on estime que c'est le mari qui était le chef de la famille, et que c'est lui, donc, qui supportait seul les charges familiales. Aujourd'hui, grâce à ce nouvel article, les hommes comme les femmes, une fois qu'ils sont mariés, ils bénéficient chacun des parts fiscales de la même manière.
À part égale.
À part égale.
Donc, il n'y a plus d'inégalité à ce niveau.
Exactement. Vous voyez, il y avait aussi une autre disposition qui était quand même inégalitaire pour le mari d'une femme fonctionnaire. En cas de décès de cette femme, il ne bénéficiait pas de la pension de la femme, de la pension de réversion de la femme. Avec cette nouvelle loi, ça fait que ça aussi, ça a été modifié. Le veuf, aujourd'hui, si sa femme décède, il bénéficie de cette pension.
Donc dans le couple, les deux parties sont gagnantes.
Exactement.
Bon, ça pose encore le problème de la communication autour de nos articles de loi. Pour les rendre explicites et compréhensibles aux populations, raison pour laquelle aussi au niveau de Radio de la Paix, il y a ce magazine qui existe.
Tout à fait.
Et que nous prenons beaucoup de plaisir à recevoir des personnes avisées, expertes dans leur domaine comme vous. Voilà, Maître Francis Nakangu, nous allons déjà vous dire merci pour cette première partie de notre rendez-vous. Nous n'allons pas aller plus loin, compte tenu du temps qui nous est imparti. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour la seconde et dernière partie dans laquelle nous aborderons entre autres sujets la lutte contre les violences basées sur le genre et aussi la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Merci déjà pour ces premiers éléments de réponse, Maître Francine Akangui.
Merci beaucoup à vous et à la semaine prochaine.
Voilà, quant à vous, mes auditrices et auditeurs, nous vous disons merci de votre belle écoute. Restez à l'écoute de Radio de la Paix et puis notez, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour la seconde et dernière partie de notre entrevue avec Maître Francine Akangui, je rappelle, avocate près le barreau de Côte d'Ivoire et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. Portez-vous bien toutes et tous dans la bonne connaissance de vos droits et devoirs.
C'était Mon droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation à Aoussi Boutin.